Direction l'Opéra de Paris pour découvrir Les Indes Galantes, opéra ballet de Jean-Philippe Rameau, mis en scène par Clément Cogitor et chorégraphié par Bintou Dembélé. Les Indes Galantes, composée par Rameau en 1735, est composée d'un prologue et de quatre entrées, sur un livret de Louis Fuselier. Malgré la pauvreté et les invraisemblances du livret, l'opéra connaîtra un important succès grâce à une musique admirable. Rameau cherche l'exotisme à travers les Indes, qui seront d'ailleurs très approximatives, car elles se trouvent en Turquie, Perse, Pérou et Amérique du Nord. L'intrigue et les petits drames servent surtout à introduire un grand spectacle, où les costumes somptueux, les décors, les machineries et surtout la danse tiennent un rôle essentiel. Les Indes Galantes symbolisent ainsi l'époque insouciante, raffinée, vouée au plaisir et à la galanterie de Louis XV et de sa cour. Clément Cogitor choisit d'inscrire ces Indes Galantes dans un contexte actuel, un univers postcolonial et multiculturel des villes modernes où de jeunes gens dansant au-dessus d'un volcan affrontent des forces de l'ordre presque robotisées. Dans le prologue, nous pouvons ainsi voir Hébé, déesse de la jeunesse, organiser un défilé de mode interrompu par Bélone, déesse de la guerre, qui rhabille en CRS quelques-uns des danseurs. Le Turc généreux donne lieu à une variation sur la tragédie des migrants qui meurent en traversant la Méditerranée. Une barque de fortune est accostée et recouverte de couvertures de survie. Les Incas du Pérou célèbrent le soleil sous un écran géant publicitaire. L'incantation est captée à vif avec des téléphones portables. La fête persane des fleurs nous entraîne dans le quartier rouge d'Amsterdam, où des prostituées et un travesti dansent et aguichent derrière des cabines vitrées. Les sauvages, délivrés d'un camp de rétention, se livrent à une formidable battle de rue qui offre un final explosif, galvanisé par tous les chœurs et solistes du spectacle. Le groupe de danseurs est composé de danseurs pratiquant le crump de la compagnie Ruralité. Cette pratique est née dans les années 90 suite aux émeutes provoquées par le passage à tabac de Rodney King par des policiers. Les jeunes ont alors exprimé leurs sentiments à travers la danse en extériorisant ainsi leur mal-être. Bintou Dembélé, la chorégraphe, nous prouve qu'il peut y avoir une osmose entre des danses de rue comme le crump, le hip-hop, le popping, le walking, le voguing et la musique de Rameau. À chaque mouvement des danseurs, on s'émerveille de la correspondance qu'ils créent sans peine entre les siècles. Les mouvements permettent une réécoute de cet opéra en mettant en lumière des mélodies et des rythmes secondaires. Cette mise en scène confronte une musique patrimoniale chargée d'idéologie à la fois nationale et impérialiste, celle d'une monarchie admirable, d'une domination douce et plaisante sur les peuples exotiques, et d'une danse issue des marges, porteuse d'une expérience de la violence, des dominations et des revendications d'émancipation. Donne à l'opéra une pertinence nouvelle, explique Marine Roussillon dans le livret de l'opéra. Dans l'extrait de l'interview donnée par Bintou Dembélé sur France Culture en septembre 2019, la question de l'histoire colonialiste se pose. Pouvons-nous comprendre les enjeux cachés derrière ces danses de rue qui ont été créées par et pour des peuples opprimés ?
Dans un premier temps, concrètement, c'est une commande qui a été faite à Rameau pour fêter les comptoirs à l'époque coloniale. Donc c'était quand même des questions autour de l'esclavage et du colonialisme. Donc voilà, pour moi, c'est faire un grand pas en arrière pour se rendre compte que nos histoires ont une version, celle du vainqueur, et qu'il faut composer aussi avec la version du vaincu et d'essayer de sentir comment nos récits peuvent être convoqués sur cette scène et pouvoir dialoguer avec l'idée qu'on ne trouve pas forcément de solution, mais qu'on a tout à y être pour pouvoir amener de nouveaux publics.
En faisant quelques recherches, nous apprenons l'existence de l'appropriation culturelle. Dans un entretien pour le magazine Le Monde, Éric Faisin, sociologue, définit les termes d'appropriation culturelle, née dans les années 1990, comme un emprunt entre les cultures qui s'inscrit dans un contexte de domination. Pour citer quelques exemples, ces termes ont été utilisés pour décrire le look berbère de Madonna dans les MTV Video Music Awards, la dernière recette du riz jamaïcain du très médiatique chef anglais Jamie Oliver, ou l'absence de comédiens autochtones dans la dernière pièce du dramaturge québécois Robert Lepage, Canada, portant justement sur l'histoire du Canada à travers le prisme des rapports entre blancs et autochtones. Le problème de l'appropriation culturelle, si on peut le définir comme cela, ce n'est pas la circulation des échanges des cultures. L'emprunt est une chose qui a toujours permis de créer de nouvelles choses dans toutes sortes de domaines. Ici, il s'agit de s'inscrire dans un contexte de domination et d'utilisation de certaines caractéristiques vestimentaires en grande majorité de peuples qui ont été et sont toujours minoritaires. Leurs caractéristiques culturelles sont alors symboles d'exotisme pour les Occidentaux. Dans son livre « Représentation et non-représentation des Roms en Espagne et en France », Éric Faisin explique comment les populations roms ou gitanes sont à la fois l'objet d'un excès et d'un défaut de représentation. Même si, lorsqu'on parle de population minoritaire, on pense en premier lieu aux personnes africaines déportées pour être mises en esclavage ou alors des tribus amérindiennes, ce livre nous parle de populations plus proches de nous. La youtubeuse Sabine Dessoni nous explique dans sa vidéo sur l'appropriation culturelle que les personnes ont tendance à se tromper de débat. Pour prendre un exemple clair afin d'expliquer les enjeux de cette appropriation, nous allons parler des tresses africaines. Beaucoup de personnes pensent que la femme blanche ne devrait pas importer. L'origine de la démocratisation de ces cultures dans les pays occidentaux n'est pas une personne africaine qui a les cheveux crépus. Cette coiffure a été démocratisée par les sœurs de la famille Kardashian. En effet, Kim Kardashian, il y a quelques années, a publié un tutoriel de ses tresses en disant qu'elle avait inventé cette technique. Le problème n'est donc pas de se faire des tresses, bien au contraire. Si nous apprécions cette coiffure et son esthétique, nous pouvons la reproduire tout en respectant la culture d'où elle est issue. Le problème se situe dans l'appropriation, sans citer l'origine, le respect, la symbolique. Le fait de faire du commerce sur ces éléments qui paraissent exotiques et qui sont le symbole de peuples opprimés peut être dérangeant. Si la mode a longtemps été critiquée pour avoir fait de l'appropriation culturelle, l'art peut être au contraire un moyen d'échanger entre les cultures et de respecter les histoires de chacun en se plaçant sur un pied d'égalité. Au MUDAC de Lausanne, l'exposition Hors Piste nous montre comment explorer les modes de collaboration et de production en plaçant au centre l'échange humain. Des designers et des artistes sont donc partis dans des régions du monde à la rencontre d'artistes et artisans locaux afin d'échanger leur savoir et de créer quelque chose de commun. Au Burkina Faso, ils ont ainsi travaillé la fonte de l'acier et le moulage dans le sable. Dans une autre ville, le tissage de paniers en osier. Au Groenland, ils ont pu travailler les peaux de phoque ou encore la poterie. Même si ces échanges n'ont pas toujours fonctionné sur un pied d'égalité, d'autres ont donné lieu à des réalisations où se mêle l'essence des deux créateurs. Dans l'opéra des Indes Galantes, Bintou Dembélé et son équipe de danseurs ont donc réussi à mêler les essences des danses de rue et de la musique classique, afin de nous offrir une relecture émouvante du passé colonial vu par les vainqueurs et les vaincus.